Il existe une limite à la force que les plus puissants eux-mêmes ne sauraient atteindre sans se détruire. L'art véritable de tout gouvernement est d'évaluer cette limite. Le mauvais usage du pouvoir constitue le péché fatal. La loi ne peut être un outil de vengeance, pas plus qu'un otage ou une barrière contre les martyrs qu'elle a pu créer. On ne peut menacer un individu et se soustraire aux conséquences. Muad'Dib et la loi, extrait des commentaires de Stilgar. Shaini contemplait le désert dans la lumière du matin qui se découpait dans la faille au-dessous du Siege Taber. Elle ne portait pas de distis et se sentait vulnérable, ici, au cœur des sables. Quelque part au-dessus d'elle, la grotte qui accédait au Siege s'ouvrait dans la paroi tourmentée de la falaise. Le désert. Il lui semblait maintenant que le désert l'avait toujours suivie, en tout lieu. Elle ne revenait pas chez elle, non. Elle se retournait simplement et posait les yeux sur ce qui n'avait jamais cessé d'être là. Une crampe douloureuse lui serra le ventre. La naissance était proche. Elle lutta pour repousser la souffrance parce que, en cet instant, elle désirait demeurer seule face au désert. La terre était figée dans le silence de l'aube. Les ombres se déployaient lentement sur les dunes et les terrasses rocheuses du bouclier. La lumière était encore tapie derrière un escarpement sous le ciel bleu et pur. Le paysage tout entier correspondait à cette impression de cynisme redoutable qui la tourmentait depuis qu'elle avait appris que Paul était aveugle. « Que faisons-nous ici ? » songea-t-elle. Ce n'était pas là une hajra, un voyage de quête. Paul n'était rien venu chercher en ces lieux, si ce n'était un refuge où elle pourrait donner le jour à l'enfant. Les compagnons qu'il avait rassemblés autour d'eux étaient bien étranges. Bijaz, le nain Tleilaxu, Hate, le gola qui était peut-être aussi Duncan Idaho, Edric, l'ambassadeur de la guilde, la révérende mère Gaius Hélène du Bene Gesserit qu'il haïssait entre tous, Lirna, l'étrange sœur d'Oseim, que les gardes ne quittaient jamais du regard, Stilgar, le naïb, et son épouse favorite, Hara, ainsi que Rulan et Alia. Les souffles du vent entre les rochers accompagnaient ses pensées. Le désert, peu à peu, était devenu une mosaïque en camaïeu, jaune sur ocre, gris clair sur gris sombre, soufre sur orangé. Pourquoi de si étranges compagnons? Nous avons oublié, lui avait répondu Paul, que le mot « compagnie » signifiait à l'origine « compagnon de voyage ». Nous formons une compagnie.
Mais de quelle valeur nous sont-ils ?
Voilà, s'était-il exclamé, tournant vers elle le regard de ses orbites vides. Nous avons perdu cette note vitale et claire de la vie. À ce qui ne peut être enfermé, désigné, chassé, frappé, traqué, nous n'accordons aucune valeur. Blessée, elle avait dit
« Ce n'est pas ce que j'avais en tête. »
Ah, ma douce, nous sommes riches d'argent et si pauvres de vie. Je suis mauvais, entêté, stupide.
Absolument pas, c'est faux.
Cela aussi est vrai. Mais mes mains sont bleuies par le temps. Je pense que j'ai essayé d'inventer la vie sans comprendre qu'elle avait déjà été inventée. Et il avait posé la main sur son ventre. À ce souvenir, elle porta ses propres mains à la rondeur tiède de son ventre et elle trembla, en regrettant d'avoir demandé à Paul de l'amener ici. Le vent était lourd des odeurs désagréables des plantations qui maintenaient les dunes au pied de la falaise. Ce que rapportaient les superstitions frémènes lui revint. Mauvaises odeurs, mauvais moments. Elle se tourna face au vent et vit un ver apparaître au-delà des plantations. Il poussait devant lui une dune mouvante et sa tête était comme la proue d'un vaisseau démoniaque, dardé vers l'eau qui était son poison. Puis il s'enfuit. Elle éprouva alors de la peur, comme un écho de celle du ver. L'eau, qui avait été l'âme esprit d'Arrakis, était donc maintenant un poison. L'eau amenait la maladie, le fléau. Seul le désert était sain, vierge. Une équipe de Fremen apparut en dessous d'elle. Ils se dirigeaient vers l'entrée du siège. elle vit que leurs pieds étaient maculés de boue. Des frémens aux pieds boueux. Au seuil de la faille, les enfants du siège chantonnèrent un chant à l'honneur du matin. Shiny eut soudain l'image de leur voix pareille à des faucons fuyant sous le vent. L'image du temps. Elle frissonna. Quelle tempête Paul voyait-il par les yeux de sa vision? En lui, elle devinait parfois la présence d'un homme de folie et de méchanceté. Un homme que les polémiques, tout comme les chansons, avaient lassé. Elle remarqua que le ciel était à présent comme un énorme cristal gris strié de traits d'albâtre, de dessins bizarres suscités par le sable et le vent. Vers le sud, une ligne d'un blanc incandescent retint son attention. Elle connaissait la signification de ce signe. Ciel blanc au sud. La bouche de Shai Hulud. Une tempête qui approchait. La brise lui confirma cet avertissement en pulvérisant sur ses joues une douce averse de sable cristallin. Le vent portait les senteurs de la mort, celles de l'eau des canas, les vapeurs du sable, le silex, l'eau. Contre elle, Shai Hulud lançait son vent Coriolis. Des faucons apparurent, cherchant un abri. Ils avaient la couleur brune des rochers, mais leurs ailes étaient marquées de pourpre. Shiny essaya de fixer son esprit sur eux. Ils avaient un refuge. Elle n'en avait aucun. « Madame, le vent se lève !» Elle se retourna. Le gola l'appelait depuis l'entrée du siège. Elle se sentit assaillie par des frayeurs toutes frémènes. Une mort propre, le don de son eau à la tribu, elle pouvait comprendre cela. Mais un être revenu d'entre les morts. Sous le fouet du vent de sable, ses joues étaient plus roses. Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule à l'effrayante rivière de poussière qui se déployait maintenant dans le ciel. Sous la tempête, le désert avait pris un aspect mouvant. Chaque dune rougeâtre semblait une vague déferlant vers la grève. Le désert était comme ces océans que Paul lui avait décrits. Elle hésita, consciente en cette seconde de la brièveté de l'existence de ce désert dans l'éternité. Confrontée à l'éternité, ce désert n'était rien de plus qu'un chaudron. Le ressac des dunes tonnait contre les falaises. La tempête devint soudain pour Shiny une chose universelle. Les animaux fuyaient. Le désert se résumait en ces bruits. Le crépitement du sable sur le roc, le sifflement d'une rafale de vent, le tonnerre d'un rocher détaché soudain de sa falaise. Puis quelque part, hors de vue, un ver surgit pour un instant en surface qui plongeait aussitôt vers les profondeurs sèches. Un moment par rapport au temps tel que le mesurait sa vie, mais dans ce moment il lui semblait que la planète tout entière était balayée, dispersée en poussière cosmique, vague entre d'autres vagues. « Il faut nous hâter !» dit la voix du Gola tout près d'elle. Elle devina sa frayeur, son inquiétude de la voir encore à l'extérieur. « Le vent sera bientôt assez fort pour arracher la chair des eaux, » ajouta-t-il, comme s'il était utile qu'il lui explique cela à elle. Devant sa sollicitude, elle oublia pourtant la crainte qu'elle éprouvait et se laissa conduire jusqu'aux marches qui accédaient au siège. Ils franchirent la contre-porte mouvante et derrière eux, des serviteurs remirent les joints étanches en place. Shiny perçut immédiatement la vague d'odeurs innombrables qui, dans son esprit, éveillait autant de souvenirs du siège. Le parfum du mélange, omniprésent, dominait le remugle des corps, des distilles, de la cuisine, des machines. Elle inspira profondément. Le gola retira sa main de son bras et fit un pas de côté. Immobile et docile, il donnait l'impression d'être déconnecté dans l'attente d'un prochain usage. Pourtant, il observait. Dans l'antichambre, Shiny hésita à nouveau, paralysée par une chose qu'elle n'aurait su nommer. Cet endroit était sa demeure. Enfant, elle avait chassé les scorpions à la clarté des brilleurs. Mais quelque chose avait changé. « Peut-être devriez-vous gagner vos appartements, madame, » dit le gola. Comme suscité par ces paroles, une crampe douloureuse lui étreignit le ventre et elle fit un terrible effort pour n'en rien laisser voir. « Madame ?» s'inquiéta le gola. « Pourquoi Paul est-il effrayé par cette naissance ? » demanda-t-elle. Il s'inquiète pour vous, c'est là une chose naturelle ? Elle porta une main à sa joue encore brûlante des gifles du sable.
Mais il ne craint rien pour les enfants ?
Madame, il ne peut penser à cette naissance sans se rappeler que votre premier fils a été tué par les Sardaukars. Elle le regarda, visage plat, yeux de métal indéchiffrable. Se pouvait-il qu'il fût réellement Duncan Idaho ? Était-il seulement l'ami de quelqu'un ? Et disait-il la vérité ? « Vous devriez avoir des médics auprès de vous, » dit-il. À nouveau, elle percevait clairement son inquiétude, sa sollicitude.
« Hate, » dit-elle. « J'ai peur. Où est mon Ouzoul ?»«
Des affaires d'État le retiennent. » Elle hocha la tête, songeant à tous ces gens du gouvernement qui les avaient accompagnés dans un grand envol d'ornithoptères. Et brusquement, elle comprit ce qui l'inquiétait dans le siège. La présence d'odeurs étrangères. Les employés, les serviteurs de la citadelle, avaient amené ici leurs propres odeurs exotiques qui composaient des effluves sous-jacents. Leur nourriture était différente, leurs vêtements étaient différents. Elle réprima un rire nerveux à la pensée que les odeurs elles-mêmes étaient modifiées par la présence de Muad Dib. « Des devoirs urgents !» ajouta le Gola, interprétant mal son hésitation. Il ne pouvait les repousser.
Oui, je comprends. Je suis venue avec eux. »
Elle avait cru ne pas survivre à cet étrange voyage. Paul avait insisté pour piloter lui-même leur nid. Les orbites vides, il avait conduit l'appareil jusqu'ici. Maintenant, rien de ce qu'il pourrait faire ne la surprendrait. Elle retint son souffle et blêmit sous la souffrance d'une nouvelle contraction.
« Le moment est venu ?» demanda le Gola. « Oui, je crois. »
« Il ne faut plus tarder. » Il lui saisit le bras et l'entraîna dans la salle. Elle lut son effroi et dit
« Nous avons encore le temps. »
Il ne parut pas l'avoir entendu. Les Ensouni prescrivent d'attendre la délivrance sans but dans un état de totale tension, dit-il en l'entraînant un peu plus vite encore. « Ne luttez pas contre ce qui arrive. Lutter est se préparer à l'échec. Ne vous laissez pas prendre au piège par le désir de réussir. Ainsi, vous réussirez tout. » Ils atteignaient les appartements de Shiny. À l'instant où ils écartaient les tentures, il cria «
Hara ! Hara ! Appelez les médics ! Le moment est venu !»
Les serviteurs surgirent en courant. Dans l'empressement général, les murmures et les regards alarmés, Shiny se sentit pour un instant isolé sur une île de calme, jusqu'à ce que reviennent les douleurs. Hate quitta la pièce et prit un temps pour s'interroger sur ses propres actes. Il lui semblait qu'il était fixé en quelque point du temps où toute vérité ne pouvait être que temporaire. Il se rendait compte que la panique seule commandait son comportement actuel. Une panique qui n'était pas directement provoquée par la possibilité de la mort de Shiny, mais par le fait que, plus tard, Paul pourrait venir à lui, plein de chagrin, et lui dire que sa bien-aimée était partie. Partie. Une chose ne peut émerger de rien, se dit-il. En ce cas, d'où vient cette panique? Ses facultés de Mentat avaient été émoussées. Lentement, il exhala un souffle vibrant. Une ombre psychique passa sur lui et il sentit qu'il attendait quelque son absolu. Le craquement d'une branche dans la jungle. Puis il soupira, avec violence. Le danger était passé sans frapper. Lentement, maîtrisant ses pouvoirs, il se mit en état de perception Mentat. Il força même cette perception. Ce n'était pas le meilleur des moyens, mais en ce moment, il était nécessaire. En lui, des ombres fantômes se déplacèrent. Il devenait une station de transfert et de tri pour toutes les informations qu'il avait rencontrées. Des créatures faites de possibilités investissaient son esprit. Il les passait en revue, les comparait, les jugeait. La sueur jaillit sur son front. Des pensées aux lisières floues se dispersaient dans les ténèbres, l'inconnu. Des systèmes infinis. Un Mentat ne pouvait fonctionner sans avoir conscience d'affronter des systèmes infinis. La connaissance fixée ne pouvait circonscrire l'infini. On ne pouvait assumer partout selon une perspective finie. Momentanément, il lui fallait devenir l'infini. En un brusque spasme gestalt, il réussit. Il vit Bijaz assis devant lui, jaillit de quelque lointain feu interne. Bijaz. Le nain avait fait quelque chose en lui. Haight avait l'impression d'osciller sur le bord d'un puits mortel. Il projeta sa ligne de déduction mentat et vit ce qui pouvait être développé à partir de ses propres actions.
« La compulsion, » dit-il dans un souffle. « Ils ont inscrit une compulsion en moi. »
Un courrier en robe bleue qui passait hésita en l'entendant. « Avez-vous dit quelque chose, maître ?» Sans le regarder, le gola acquiesça.
« J'ai tout dit.